En 2023, la fabuleuse aventure du sol ne s'arrêtera pas. Mais reprenons depuis le début. Pour l'agronome, le sol est le produit de l'altération, du remaniement et de l'organisation des couches supérieures de la croupe terrestre sous l'action de la vie, de l'atmosphère et des échanges d'énergie qui s'y manifestent. C'est donc une structure quadridimensionnelle qui, aux trois dimensions de l'espace, associe le temps. Einstein lui-même n'aurait pas dit mieux. Il est donc l'heure de se poser toutes les questions auxquelles nous allons essayer de répondre tout au long de cette année. L'organisation complexe du sol est en effet définie par un système de lois qui reste très mal connu des hommes. Sa méconnaissance vient du fait que le sol s'expose très peu au regard. Cela paraît une évidence, mais quand la végétation le couvre, il n'est pas visible. Quand il est à découvert, on ne voit que la surface. Or, le sol est un volume qui se transforme continuellement. Enfin, sa surface, visible ou non, ne laisse pas facilement deviner son organisation interne, avec ses caractéristiques et ses propriétés analytiques et qualitatives. Le sol abrite en effet de très nombreuses espèces animales et végétales. Les organismes du sol appartiennent d'une part à des groupes connus des micro-organismes, les bactéries, et en particulier les actinobactéries, les champignons, les algues, les protozoaires et les virus, et d'autre part à certains groupes d'animaux, surtout des nématodes et des annélides, des arthropodes, en particulier des insectes, voire des petits mammifères. Évidemment, nous avons tendance à nous intéresser en priorité à l'occupation du milieu par les plantes et donc par la vigne au cours du cycle des saisons. Il faut avouer que c'est le plus simple car il suffit de regarder, quoique on ne verra toujours pas ce qui se passe en dessous. Pourtant, nous savons que la faune et la microfaune du sol jouent des rôles fondamentaux dans le maintien de la fertilité physique et chimique des sols. Évolution de la matière organique, stabilité de la structure, aération du sol par exemple. Ainsi, de nombreux cycles biologiques passent par le sol et l'incluent donc comme élément constitutif de nombreux écosystèmes. C'est un habitat essentiel pour la biodiversité. Ainsi, la matière organique du sol s'exprime comme une matière carbonée provenant de la décomposition et du métabolisme des végétaux, des animaux et de la faune microbienne et fongique. Elle constitue l'humus. Si nous devions résumer nos précédentes vidéos consacrées à la vie des sols, retenez que le sol est une zone tampon extraordinaire en termes de régulation biochimique, filtration, stockage et dépollution. Plus le couvert végétal est jeune et plus il est concentré en éléments solubles, des sucres issus de la photosynthèse, des acides aminés, des éléments minéraux, etc. A l'inverse, plus le couvert est à un stade avancé, plus son taux de lignine va augmenter. Détruire un couvert permet donc de restituer au sol une matière organique dite labile, des éléments avec un rapport C sur N faible et un temps de dégradation rapide, quelques jours, voire quelques mois. Le carbone labile est le carburant du sol, il sert d'énergie aux micro-organismes. Il offre une très bonne efficience de conversion en humus stable par une meilleure activité biologique des sols. L'humus, quant à lui, a un temps de dégradation plus lent. Il a un rôle de stabilisateur pour les sols par des protections chimiques et physiques. À elle seule, la matière organique stable ne suffit cependant pas à structurer le sol. Elle doit s'accompagner d'une activité biologique intense, rendu possible par de bons taux de carbone labile. Et comme nous le savons tous, un sol sain contient de 3 à 4 tonnes d'organismes par hectare. On trouve aussi bien des vers de terre et des insectes que des champignons et des bactéries. Or, c'est souvent cette dimension qui est occultée, notamment lorsqu'il s'agit de mesurer la composition des sols. Alors c'est vrai, on a bien rigolé avec le test du slip, c'est bien gaulois, même si personnellement je trouve regrettable d'obliger les agriculteurs ou les viticulteurs à devenir des beaufs qui enterrent des slips dans leur sol pour savoir si celui-ci est cultivable. J'ai dit regrettable, j'aurais dû dire lamentable, tellement les paysans, autrement dit les hommes de la terre et de leur pays, méritent mieux que cette pantalonnade. Alors, puisque nous sommes en début d'année, voici les 7 questions formulées par le microbiologiste Waxman en 1927, et elles sont toujours d'actualité. 1. Quels organismes sont actifs dans le sol et que font-ils ? 2. Quelles relations d'association ou d'antagonisme existent entre la microflore et la microfaune ? 3. Quelles sont les relations entre les transformations de la matière organique et la fertilité des sols ? 4. Quelle est la signification du bilan énergétique dans le sol ? 5. Comment agissent les plantes cultivées sur les transformations dans le sol ? 6. Comment pourrait-on modifier les populations du sol et pourquoi faire ? Et enfin, et dernière question, la 7e, quelle relation existe entre les conditions physico-chimiques dans le sol et l'activité microbienne ? Cette année encore, la conservation des sols restera un enjeu majeur. Tous les sols sont concernés, érosion, compaction, pluie acide, pesticides, métaux lourds, salinisation, constituent des facteurs importants de la dégradation des sols. Comme nous allons terminer sur un instant d'espoir, formons le vœu que la prochaine loi d'avenir et d'orientation de l'agriculture réussisse l'alliance du paysan, de l'environnement et de la société. Parce que, plus que tout, il n'y a pas d'opposition à imaginer, c'est le paysan qui fait société comme il l'a toujours fait, sans lui rien n'a été, rien n'est et rien ne sera demain. Soyez-en sûrs.